Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les carnets du monde. Jusqu'à 14h, on bouge, on vadrouille, on va écouter le monde changer. En commençant par deux pays qui sont en pleine mutation depuis un an. Il s'agit du Soudan et de l'Algérie. Deux pays qui, par la contestation populaire, ont réussi à faire tomber leur président. Au Soudan, c'était Omar el-Béchir, tyran au pouvoir depuis 30 ans. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika, en place depuis 20 ans et qui prétendait briguer un cinquième mandat. Les deux peuples ont dit non, il y a un an. Et sans effusion de sang, les transitions se sont opérées. Alors on va retourner voir où ils en sont, à Khartoum et à Alger, et comment ils arrivent plus ou moins à se débarrasser de ces anciens systèmes profondément insinués dans la société, l'économie et l'État. Nous irons aussi en Corée du Nord avec Juliette Morillo, qui sera notre invitée. Cette grande spécialiste de la péninsule coréenne nous livre le récit de vie d'une femme, Mi-jin, qui est née et a vécu 40 ans dans les campagnes de Corée du Nord, un témoignage intimiste et rare. Et puis on prendra le vapour pour une belle balade sur le Bosphore à Istanbul. Bien plus qu'un simple détroit, c'est tout un monde qui gravite là entre les continents européens et asiatiques. Nicolas Caro nous parlera d'un roman historique qui nous transporte à Barcelone au tout début de la guerre d'Espagne. Quant à Joseph, il a été très inspiré par la visite du grand béguinage de Louvain en Belgique. Les carnets du monde sont ouverts et on prend la direction de Khartoum au Soudan.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
L'an dernier, on vous parlait déjà dans les carnets du Soudan, ce pays du nord-est de l'Afrique. Il était en pleine ébullition. Le régime venait de décréter l'état d'urgence après 2 mois de manifestations quotidiennes provoquées par l'augmentation du prix du pain. Le dictateur Omar el-Béchir allait bientôt tomber en avril, après 30 ans de pouvoir. Alors on y retourne au Soudan pour voir où en est le pays 10 mois après la chute du tyran, 6 mois après la nomination d'un nouvel organe de transition où les militaires et les civils se partagent le pouvoir. Et notre guide, c'est Ariane Lavrieux. Bonjour Ariane.
Bonjour.
Vous êtes retournée à Khartoum, la capitale. Le parti de l'ancien régime a été démantelé et vous avez pu constater que ce changement était visible au plus petit échelon de la société, c'est-à-dire dans les quartiers. Expliquez-nous.
Alors ça s'incarne dans une instance particulière. À l'époque d'Omar el-Béchir, chaque quartier avait son comité populaire, dont les membres étaient nommés par le parti au pouvoir. C'était une organisation clientéliste qui servait de relais au régime. Il distribuait des aides sociales, des passe-droits à ses partisans. Ouais. C'était l'échelon le plus petit et visible du vaste système de corruption et de contrôle de la population qui caractérisait l'ancien régime. Et les premiers jours, juste après sa chute, ces comités ont été dissous. Et moi, j'ai découvert leurs successeurs, les comités de résistance, dans un quartier résidentiel de Khartoum. Ils n'ont pas d'argent, mais beaucoup d'idées.
Alors on vous suit, Ariane, dans ce quartier de la capitale soudanaise. Reportage.
À la nuit tombée, la grande place du quartier Amarat s'anime. Face à une toile blanche, quelques centaines de personnes s'installent sur des chaises en plastique pour une séance de ciné en plein air.
C'est du pop-corn. T'en veux un ? Attends, je t'en donne un mieux rempli. Le petit, c'est 10 et le grand, 20 livres. Personne ne finance la projection, alors chaque jeune donne ce qu'il peut. Et on vend aussi des petites choses pour payer les frais.
Wow ! Citoyens ! Bienvenue à tous. On est le comité du quartier Amara. Et on est très heureux que vous soyez venus profiter avec nous du film. Akasha qui parle d'un enfant révolutionnaire dans les montagnes de Nouba. Et surprise, l'équipe du film est là, à Khartoum, avec nous. C'est la première fois qu'ils viennent depuis la chute du régime.
Rire, applaudissements à tout rompre, le public est conquis par ce film d'auteur et interdit sous l'ancien régime parce qu'il montre la guerre menée dans une des régions les plus pauvres et marginalisées du Soudan. Pour l'organisatrice de la soirée, Soulwa Ahmad, c'est un moyen de réparer les dégâts de la dictature.
L'ancien pouvoir a détruit le cinéma soudanais. La plupart des réalisateurs ont dû s'exiler.
Avant,
il y avait plein de salles. Mais là, aujourd'hui, il n'en reste plus que deux. Non, non, pas juste à Khartoum, mais dans tout le pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut projeter uniquement des films soudanais et en particulier des films qui s'attaquent au racisme et aux guerres au Darfour, dans les monts Nouba. Bref, tout ce dont on ne parlait pas avant.
Avec cet activiste de 33 ans, ils sont une vingtaine de jeunes à diriger le comité de résistance du quartier, en accord avec une sorte d'assemblée de 200 habitants volontaires regroupés sur un réseau social en ligne. Ce nouvel organe est né pendant la révolution et a perduré après la chute du dictateur il y a 10 mois, avec l'objectif de mieux gérer les espaces publics, nous explique son représentant Shahin El Sherif.
Cette école date des années 70, mais une partie de la cour a été vendue à des investisseurs. En théorie, c'est interdit car c'est un terrain pour jouer au foot dans une école publique. Mais l'ancien régime avait donné les autorisations, donc on pouvait rien faire. Maintenant, nous, les habitants, on fait plus confiance aux autorités. Et même si c'est nous qui avons désigné le nouveau gouvernement, la confiance a disparu après 30 ans d'oppression. Pour être sûr que ça ne recommence pas, on a rénové ce qui reste pour en faire un vrai terrain. Là, on a planté des arbres que des jardiniers nous ont donnés. C'était la première action du comité de résistance. Et si jamais il y a des tentatives d'expropriation, on le verra, parce que ça leur prendra du temps d'enlever tout ça et d'enlever les murets.
Même si un gouvernement civil est en place, Shahin et ses amis craignent que des agents de l'ancien régime reviennent semer le chaos. Alors de nuit par semaine, les garçons du comité patrouillent dans les zones définies par le chef de la police, Mohamed Ibrahim.
Les citoyens nous aident, mais nous contrôlons la situation. Et en cas de problème, il y a toujours un officier qui intervient avec la patrouille.
En contact par téléphone avec la police, la petite troupe n'est pas armée, mais se balade avec des branches d'arbres dans les mains.
On a juste des bâtons, c'est pas grand-chose, mais ça permet de se défendre au cas où. Là, c'est la rue 43, et jusqu'à la 57, c'est là qu'il y a le plus de vols. Et le gouvernement vient de nous avertir qu'il y a des gangs qui rôdent dans Khartoum, et il y a des rebelles, des anciens espions du précédent régime, qui aujourd'hui n'ont plus de revenus, donc ils choisissent la criminalité. Donc il faut qu'on garde notre quartier en sécurité.
Quand ils ne patrouillent pas, le comité de résistance se réunit. Au menu, les projets de développement du quartier et les plaintes des habitants. Ce soir, deux étudiantes sont venues dénoncer les abus de pouvoir dans leur internat.
Je suis révoltée contre les gardes de l'internat et j'ai écrit un mot où je liste tous nos problèmes, notamment deux cas de harcèlement sexuel et d'autres chantages par téléphone. Suite à ça, ils m'ont exclu 7 jours et j'ai dû dormir dans la mosquée d'en face. Je suis allée me plaindre au ministère et là ils m'ont dit « Dégage, tu n'es qu'une activiste politique ».
Le problème, c'est que les universités et administrations sont encore remplies de partisans de l'ancien régime. Le mieux, ce serait qu'on organise avec vous un sit-in ou une conférence de presse pour défendre vos droits.
D'un commun accord, les étudiantes organiseront un rassemblement devant l'internat et seront imitées quelques jours plus tard dans d'autres facultés où l'administration et ses pratiques arbitraires n'ont pas changé malgré la chute du régime. À Khartoum, Ariane Lavrieux, Europe 1.
Retour en studio et on est toujours en ligne avec vous, Ariane Lavrieux. On vient de l'entendre hein, avec ces étudiantes. Même si le pouvoir a changé de main, les partisans de l'ancien régime n'ont pas baissé les armes.
Oui, c'est le cas de le dire, hein, puisqu'il y a un mois, d'anciens agents des services de renseignement se sont rebellés. Ils étaient censés avoir été désarmés, mais quelques milliers ont repris le contrôle de leurs anciens bureaux pendant quelques heures. À Khartoum, mais aussi dans 9 autres provinces, dont le Darfour. L'armée a mis fin assez rapidement à cette mutinerie, mais ça veut dire qu'il y a eu une grosse faille de sécurité, des complicités, et donc que les nouvelles autorités ne contrôlent pas encore totalement le territoire. Et ces administrations, où vous l'avez entendu, tout le personnel n'a pas été remplacé.
Alors justement, Omar El-Béchir est aujourd'hui en prison. Il pourrait même être traduit devant la Cour pénale internationale qui l'accuse de génocide et crimes de guerre. Mais ses partisans, où sont-ils ?
Les plus connus ont fui. J'ai été dans un quartier chic, aujourd'hui désert. Beaucoup de villas d'anciens députés sont vides. Salle à gauche, par exemple, l'ancien directeur des services de renseignement s'est d'abord réfugié en Égypte. Il est aujourd'hui en Érythrée. Un certain nombre de hauts fonctionnaires ont été mis à la retraite. On a aussi proposé aux ex-espions de se reconvertir dans l'armée. Mais dans les services, les entreprises publiques, il reste des bataillons d'employés qui ont été nommés pour leur loyauté à l'ancien régime, pour leur adhésion adhésion aussi à l'idéologie islamiste. Et les révolutionnaires reprochent au gouvernement civil d'être beaucoup trop clément, alors qu'il faudrait selon eux de grandes purges pour reconstruire l'État soudanais. J'ai posé cette question à Rachid Saïd Yacoub. Vous vous souvenez, hein, il était l'un des porte-parole de l'Association des professionnels, d'abord exilé en France, puis au cœur de la révolte. Aujourd'hui, il est vice-ministre de l'Information.
Partout, les gens réclament plus de ménage, mais nous, on est obligés de respecter les lois. Parce que maintenant, on est dans un cadre juridique gouverné par le document constitutionnel. On a licencié un certain nombre de directeurs de services publics de la télé et de la radio qui ont été nommés par leur appartenance politique, pas par leurs compétences professionnelles. Mais on ne va pas remplacer les personnels. Et c'est pour ça qu'on n'est pas assez rapide comme les gens voulaient.
Voilà Rachid Saïd Yacoub qui était venu à Europe 1 hein, nous raconter, nous expliquer ce qui se passait au Soudan avant même la chute d'El-Béchir. Ariane, sur le plan économique, comment les autorités gèrent-elles la situation ?
Mais les prix continuent à flamber, la livre soudanaise s'est effondrée et on le voit dans les rues, la pauvreté a explosé au grand jour. L'ONU nous dit que plus de 9 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire, c'est deux fois plus qu'en 2018. Dans les boulangeries, aux stations essence, les pénuries provoquent de très longues files d'attente.
Et malgré ça, la société civile est toujours aussi mobilisée ?
Oui, il y a une très très forte mobilisation de cette société, des Soudanais à l'étranger qui envoient de l'argent et les fameux comités de résistance organisent la riposte contre les hommes d'affaires proches de l'ancien régime qui sont accusés d'aggraver la crise parce qu'ils contrôlent les circuits de distribution de farine, de gasoil subventionnés par l'État et en revendent une partie au marché noir. Donc les comités de citoyens multiplient les contrôles tout au long de la chaîne de production et ont même créé une application pour suivre et comptabiliser où va la farine.
Excellent. Donc la révolution est toujours en cours, hein. Finalement, c'est ça qu'on entend et c'est passionnant de la suivre comme ça, par étapes. Merci beaucoup, Ariane. Je rappelle que vous êtes notre correspondante en Égypte, mais que vous étiez envoyée spéciale au Soudan ces dernières semaines. Merci de nous avoir ramenés à Khartoum. À bientôt.
À bientôt.
Et il y a un an, une autre révolution débutait, c'était en Algérie. Le Hirak, soulèvement populaire, allait mener là encore à la chute du président Bouteflika. Où en sont les Algériens ? Réponse dans un instant.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h, c'est Sophie Larmoyer sur Europe 1. Et ce vendredi, les Algériens sont descendus dans les rues pour la 53e semaine consécutive. Ça fait un an exactement qu'a démarré la contestation populaire, Sophie.
Le Hirak, c'est le nom de cette contestation pacifique il y a un an pour dire non à la perspective d'une cinquième présidence Bouteflika. Les Algériens étaient surpris eux-mêmes d'être si nombreux à manifester. On entendait alors toute leur détermination.
On est en train de marcher, on exprime notre ras-le-bol. Il faut que ça s'arrête, c'est tout.
C'est pour l'Algérie, pour le changement. On rejette ce système.
Le président est malade, on aimerait qu'il aille se reposer, il a fait sa mission, assez. C'est surtout tout le clan qui doit partir.
Il faudrait que l'Algérie... Fasse un peu de ménage à l'intérieur.
Ça, c'était il y a un an. Aux premières loges, Nour Chahine tendait son micro à cette jeunesse et nous racontait sur Europe 1 ces foules immenses qui déferlaient dans les villes d'Algérie. Bonjour Nour.
Bonjour Sophie.
Vous nous parlez depuis Alger. Il s'est passé beaucoup de choses depuis un an, à commencer par la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Malade et invisible, après 20 ans d'exercice du pouvoir, le puissant chef d'état-major Gaïd Salah est mort en décembre dernier et un nouveau président, Abdelmajid Tebboune, a été élu. Donc c'est pas rien, même si ça n'a pas été le grand coup de ménage que réclamaient les Algériens, la fin du système. Alors d'abord, Nour, est-ce que cet anniversaire du Hirak, c'est-à-dire la contestation populaire, a été fêté dans le pays ?
Oui, surtout ce vendredi, où l'on assiste à chaque fois à une grande mobilisation. Mais depuis quelques jours, déjà plusieurs manifestations ont eu lieu pour célébrer cet anniversaire dans les régions du centre du pays, notamment à Bjaïa, où avait débuté le mouvement de célébration. Et puis, la société civile s'est montrée très active depuis quelques jours. Des associations ont organisé un peu partout à travers le pays des colloques et des rencontres sur des thématiques liées au Hirak, comme les libertés individuelles et collective, sur la démocratie, sur les thématiques de la jeunesse. Et du côté des autorités aussi, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a annoncé que désormais le 22 février serait une journée nationale.
Alors on va essayer de percevoir avec vous, Nour, l'état d'esprit des Algériens un an après le début de cette contestation. Il y a d'abord ceux qui n'en démordent pas, qui veulent des changements plus profonds encore.
Oui, il continue d'ailleurs de démontrer cette insatisfaction en manifestant chaque vendredi et à une échelle moindre les mardis. C'est un peu l'aile radicale ou dure de la révolte populaire, ceux qui estiment que les déclarations d'intention de l'actuel gouvernement ne suffisent pas. J'ai rencontré un de ces fidèles de la marche du vendredi, il s'appelle Amine, 22 ans, il est étudiant en chimie à Alger.
Bien voilà, ça fait déjà un an qu'on est en train de sortir chaque vendredi dans les rues. Finalement, ce président, en fait, c'est vrai qu'on a été une majorité à ne pas voter, mais voilà, après ça reste le jeu électoral dans le sens où même si c'est une minorité qui a voté, il a été élu. Nous, c'est vrai qu'on est déçus parce qu'on voulait d'autres élections, on voulait un autre système, on voulait un autre président qui nous représentait. Mais d'un autre côté, nous sommes contents, c'est-à-dire nous poursuivons cette pression que nous sommes en train d'exercer sur le pouvoir parce que ça nous permet justement de gagner du terrain un peu chaque jour. C'est une manière de leur dire qu'on est là, que notre voix, elle compte. Le changement, on est conscient que ça va venir doucement, mais aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est une justice libre et juste. On demande aussi un système éducatif qui nous permette de trouver du travail selon nos spécialisations ou sinon qu'on soit tout simplement réorienté vers d'autres métiers qui aujourd'hui emploient. On veut une société juste, libre, c'est-à-dire voilà, c'est un ras-le-bol.
Est-ce que vous avez espoir de voir un jour vos revendications satisfaites ?
Justement, je pense que c'est cet espoir qui nous fait sortir chaque vendredi, sinon c'est pas la peine. Sinon on aurait lâché le combat, ça fait longtemps. Oui, on a espoir. Et même si ce n'est pas cette année ou l'année prochaine, on continuera à mettre la pression en espérant qu'un changement radical, ou du moins comme celui qu'on imagine pour cette Algérie, arrivera bientôt.
Voilà la détermination souriante d'Amine, cet étudiant algérien. D'autres ont arrêté les manifs du vendredi, ont choisi de ne plus manifester. Pourquoi, Nour ? Lassitude ou espoir qu'un changement est vraiment en cours ?
Un peu des deux. Il faut savoir que la crise politique n'a pas arrêté d'évoluer ici. Le départ de l'ex-président Bouteflika le 2 avril dernier est considéré par une partie des Algériens, en tout cas comme étant la plus grande des victoires. Et puis, il y a eu les arrestations et condamnations judiciaires d'anciens responsables, notamment le propre frère de Bouteflika et le tout-puissant général Toufir qui est passé à la trappe avec un autre général du renseignement. Ils ont été condamnés à 15 ans de prison chacun, des peines confirmées en appel il y a 2 semaines. Et puis, il y a eu aussi des hommes d'affaires emprisonnés pour leur implication dans des histoires de corruption, mais également des sénateurs, des députés et d'autres personnalités publiques influentes à l'époque de Bouteflika.
Ça a convaincu certains que ça bougeait vraiment, quoi.
Exactement, cette impressionnante traque aux corrompus qui ont incarné la mafia du système, comme on l'appelle ici, et quand même a réussi à quand même convaincre un bon nombre de citoyens. C'est le cas pour cette étudiante de 21 ans d'ailleurs qu'on a rencontré à Alger, elle s'appelle Nesrine.
J'ai fait partie des premiers qui sont sortis pour empêcher la réélection de Bouteflika. Depuis quelques mois, j'ai arrêté de sortir les vendredis, les mardis, du moment que Bouteflika n'était plus de la partie, donc il a été complètement évincé. C'était déjà une première victoire. Et puis son départ, il faut dire qu'il était accompagné de plusieurs arrestations d'anciens voleurs du régime. Et puis, il y a aussi l'élection du nouveau président, un nouveau gouvernement. Donc, j'ai vraiment espoir et je lui fais confiance. J'attends le profond changement qu'il nous a promis. Et puis, j'ai juste envie de dire qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. Les choses semblent se faire tout doucement. On attend les réformes sur tous les plans. Il y a aussi de nouveaux chantiers qui sont lancés. Et puis, voilà, on attend de voir. J'attends de voir les choses se poser. Il faudrait que toutes les réclamations du peuple soit écouté, traité et déjà au niveau de la justice, bien on attend de voir d'autres hommes d'affaires, d'autres anciens dirigeants derrière les barreaux. Et pour l'instant, ça a bien commencé et puis on attend de voir les choses se faire.
Que pensez-vous des Algériens qui continuent de sortir chaque vendredi ?
L'Algérie nouvelle, c'est aussi une Algérie de liberté, de tolérance. Et c'est pour ça que je soutiens les Algériens qui continuent de sortir tous les vendredis, les étudiants qui continuent de sortir tous les mardis. Je les soutiens totalement.
Voilà, beaucoup d'attentes et d'espoir, hein, on l'entend avec cette jeune étudiante. Dans un contexte économique, Nour, qui est difficile, hein, il faut le rappeler, les préoccupations du quotidien prennent le dessus aussi.
Eh oui, le pays traversait déjà une crise économique profonde depuis 2014 à cause de la chute des prix du pétrole, principale ressource financière du pays. Mais avec la crise politique qui dure depuis un an, le ralentissement général de l'économie a touché tous les secteurs. La consommation est en berne, les carnets de commandes des entreprises sont vides, des milliers de travailleurs ont perdu leur emploi en quelques mois et le secteur des services n'est pas épargné, comme en témoigne Mouloud, 35 ans, qui est chargé de clientèle dans une boîte de communication.
En ce qui concerne les entreprises, la plupart, ils sont attachés aux hommes d'affaires. Et ces hommes d'affaires, automatiquement, ils sont liés à l'ancien régime. Donc, il y a le Hirak, la révolution populaire, qui a dénoncé ces pratiques de l'ancien régime. Donc, il y avait un impact négatif sur les entreprises de com et les médias d'une manière générale en Algérie. Dans notre entreprise, pratiquement, on a pas de publicité publique comme avant. Et même pour la publicité des annonceurs privés, des entreprises privées, il y a un énorme recul dans tout ça et automatiquement a un impact négatif sur la situation financière de l'entreprise et bien sûr les salaires. On a des retards énormes dans les salaires. C'est presque six mois, on est dans le septième mois. En Algérie, on ne peut pas tenir un mois sans salaire. Alors, cinq ou six mois sans salaire, c'est intenable et c'est très difficile de résister et de continuer.
Et je peux vous assurer, Sophie, que la situation de Mouloud sans salaire depuis 7 mois est loin d'être un cas isolé.
Oui, cette situation économique et sociale qui se dégrade, c'est vraiment le gros défi pour le gouvernement.
Absolument, on le voit dans la multiplication des grèves et l'impatience du Front social qui risque à tout moment de rejoindre à nouveau le Hirak. Et c'est là toute la crainte du pouvoir en place, d'où cette réaction des pouvoirs publics qui soufflent le chaud et le froid et continuent d'interdire certaines manifestations, d'en autoriser d'autres, même d'arrêter d'emprisonner des manifestants tout en libérant certains quelques jours après. C'est pour vous dire, Sophie, que les vieux réflexes répressifs du pouvoir n'ont pas totalement disparu.
Merci beaucoup, Nour Chahine, pour ce petit bilan du Hirak, cette contestation populaire des Algériens qui font bouger les lignes de manière pacifique depuis un an. À très bientôt dans les carnets.
Merci et à bientôt.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
13h24, allez, on quitte un moment le terrain du grand reportage pour se plonger dans un bon bouquin, Sophie Larmoyer. Un livre dans le monde, c'est la parenthèse littérature avec Nicolas Caro qui nous a rejoint.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Le plus souvent, vous nous présentez des auteurs étrangers, ce n'est pas le cas aujourd'hui. En revanche, le thème du roman qui est devant vous nous emmène en Espagne, en Catalogne, à Barcelone précisément.
Avec Hélène Le Gray, qui signe Le front dans l'azur chez Calman Levy. Mais pour l'instant, au début du roman, nous sommes dans le train, c'est l'été 1936. Il y a là Madeleine, elle est élève infirmière, mais surtout sportive. C'est une athlète et dans le train, il y a toute une délégation française.
1936, des sportifs, ils vont à Berlin aux Jeux Olympiques ?
Effectivement, les Jeux Olympiques cette année-là étaient organisés à Berlin, sous le Reich d'Hitler. Donc, et pour cette raison, de nombreux sportifs ont dit non. Et des Olympiades populaires antifascistes ont été organisées à Barcelone pour contrer précisément ces JO de Berlin.
Et ça, c'est l'histoire avec un grand H.
Oui, ce sont des faits. Alors pourquoi Barcelone ? Eh bien, j'ai posé la question à Hélène Le Gray.
Barcelone était en lice contre Berlin pour avoir ces Jeux Olympiques de 36. En plus, il y avait eu une exposition universelle en 29, ce qui fait que il y avait déjà toute l'infrastructure hôtelière, etc., qui était prête. Et donc, il y a 6000 athlètes représentant 22 pays qui, à la mi-juillet 1936, ont convergé vers Barcelone pour disputer ces Olympiades de la fraternité, on va dire, par opposition à la grand-messe nazie l'exaltation de la race aryenne qui devait avoir lieu le mois suivant à Berlin. Et parmi eux, 1500 athlètes français sont arrivés à Barcelone le 18 juillet 1936.
Été 36, Nicolas, c'est aussi la guerre d'Espagne.
Exactement. Ce même jour, c'est la prise de pouvoir par Franco. Et c'est dans ce contexte historique donc qu'Hélène Le Gray installe les personnages de son roman, à commencer par Madeleine, donc d'origine catalane, qui découvre Barcelone. Il y a Odette aussi, ou Jeanne, ou Suzy, qui est bien décidée, elle a rencontré un Hidalgo. D'ailleurs, en arrivant, elle demande à deux haltérophiles de la délégation de porter ses bagages. Bon, enfin, c'est la fête. Bonne ambiance, il y a des sportifs de tous les pays du monde. Les accents se mélangent. Madeleine est déjà courtisée par un Français, Marcel, et un Catalan, Alex. Les filles rejoignent leur chambre d'hôtel, mais le lendemain matin, tout l'hôtel est réveillé en sursaut. Les balles sifflent. D'ailleurs, Odette est blessée par un éclat. C'est le soulèvement de Franco qui commence et on va suivre ces personnages dans ce contexte. Ces personnages, ces femmes sportives, donc, c'est ce qu'a voulu raconter Hélène Le Gray.
Je trouve que les auteurs mésestiment et sous-estiment le sport. Amateur, bien sûr, pendant des décennies, il a été amateur, comme révélateur des soubresauts de la société pendant plus d'un siècle. En fait, écrire un livre sur la guerre d'Espagne Personnellement, je ne m'en sentais pas trop légitime dans la mesure où il y a énormément de livres qui ont été écrits, et puis pas par n'importe qui, hein, Nigoué, donc Orwell, Malraux, enfin il y a eu même un prix Goncourt, donc avec Lydie Salvert il n'y a pas très longtemps. Et la question c'était simple, c'était écrire un livre de plus, ça aurait été un livre de trop, sauf si j'apportais quelque chose de nouveau. Et là, je crois que j'avais le sujet, parler de ces Olympiades populaires et de l'engagement des femmes.
Voilà, c'est donc sous ce prisme qu'on observe la guerre d'Espagne.
Exactement, et il n'y a rien de mieux, à mon avis, qu'un roman historique, qu'une bonne histoire qui s'intègre dans la grande histoire pour comprendre des événements.
Alors, qui est cette femme sur la couverture ? Belle photo noir et blanc.
Très très belle, c'est une photo d'un photographe mexicain, Guzman. La jeune fille s'appelle Marina Ginés, m'a expliqué Hélène Legray. Elle avait 17 ans en 36 et elle s'est battue côté antifranquiste, côté républicain. Elle pose sur le toit de l'hôtel Colonne avec la ville en fond et ce fusil dans son dos, avec ce regard plein de confiance en elle, ce sourire énigmatique et très beau.
Le front dans l'azur, c'est chez Calman Levy. Et vous comprendrez mieux les choix d'Hélène Legray quand je vous aurai dit qu'avant d'écrire des romans, cette journaliste a été la première femme à couvrir le sport sur Europe 1 à la fin des années 80 et jusqu'au JO de 1992 à Barcelone. Voilà, et on l'embrasse. Merci Nicolas, à tout à l'heure.
Merci Sophie, à tout à l'heure.
L'histoire de la femme dont on va parler dans un instant est digne d'un roman, sauf que là, tout est vrai. Elle s'appelle Mi Jin, elle est née et a vécu 40 ans en Corée du Nord avant de se réfugier au Sud. À tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
Jusqu'à 14h, écoutez Le Monde changer avec Europe 1 et Sophie Larmoyer. C'est dans l'un des pays les plus fermés au monde que les carnets vous emmènent maintenant, en Corée du Nord, Sophie.
Dimanche dernier, les Nord-Coréens ont rendu hommage à la mémoire de Kim Jong-il pour l'anniversaire de sa naissance. Le leader actuel s'est rendu au mausolée de son père. C'était la première sortie publique de Kim Jong-un en 3 semaines. Je suis ravie d'accueillir dans les carnets aujourd'hui l'une des meilleures spécialistes des deux Corées, en particulier de la Corée du Nord. Bonjour Juliette Morillo.
Bonjour.
Je vous ai invitée pour que vous nous parliez de votre dernier livre, paru cette semaine, un livre coécrit avec Dorian Malovic, chef du service Asie au quotidien La Croix. Il s'agit de la confession très intime d'une femme nord-coréenne. On va y venir, mais d'abord, j'aimerais qu'on évoque l'actualité en Corée du Nord, une réalité assez terrible, puisque ce pays a un peu plus de 1000 km de frontières terrestres communes avec la Chine. Des centaines de milliers de Nord-Coréens travaillent chez le grand voisin chinois et vice-versa. Et la peur d'une contamination du coronavirus a poussé Pyongyang à se boucler à double tour et donc à s'isoler un peu plus.
Oui, pour le coup, la Corée du Nord est véritablement devenue un royaume ermite, puisqu'elle a très 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 vite pris la décision de bloquer sa frontière, en effet, avec la Chine et bien évidemment aussi avec la Corée du Sud. Elle a également pris des mesures de terrain, c'est-à-dire qu'elle a interdit tout voyage en Corée du Nord, c'est-à-dire le tourisme s'arrête, les étrangers n'ont plus le droit de venir, toutes les liaisons aériennes ont été interrompu. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est très délicat pour eux parce que la population étrangère est essentiellement chinoise. Il y a une minorité chinoise qui porte littéralement à bout de bras le commerce et donc l'économie nord-coréenne. Donc ce blocage entraîne bien évidemment sur le terrain une économie chaotique et avec les sanctions, on se demande un petit peu comment ils vont faire face à cette épidémie.
D'un point de vue sanitaire, le système de santé nord-coréen n'est absolument pas prêt à faire face à un début d'épidémie. Ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas de médicaments, ça c'est habituel.
Non, alors la Corée du Nord aimerait bien évidemment qu'il y ait un assouplissement des sanctions. Officiellement, vous n'avez pas de cas avéré en Corée du Nord. Toutefois, on peut en douter parce qu'à la frontière, notamment la ville de Sinuiju, il y aurait eu 5 cas d'infection. Il y a des zones de quarantaine qui ont été créées.
Allongées à 30 jours d'ailleurs.
Voilà, allongées à 30 jours. Les usines qui fabriquent des masques travaillent à plein 24 heures sur 24 pour essayer de donner des masques à la population. Je pense qu'en fait, Pyongyang est relativement protégée parce que c'est quand même la ville privilégiée du pays, mais les campagnes n'ont pas grand-chose pour faire face à cette épidémie. Il faudrait que l'OMS s'intéresse à ça et qu'il y ait une petite levée des sanctions au moins d'un point de vue sanitaire. Alors les États-Unis ont dit, en effet, la Maison-Blanche a dit qu'elle était favorable à aider la Corée du Nord face à ce fléau.
La Chine était le seul pays qui continue à échanger avec la Corée du Nord, à commercer finalement. Le bouclage du pays aujourd'hui signifie aussi que certains produits n'arrivent plus.
Les produits n'arrivent plus, les produits, alors tous les échanges, alors les échanges officiels bien évidemment, mais surtout les échanges informels, parce que vous parlez de cette énorme frontière au nord, et on y reviendra après avec notre héroïne, mais cette frontière au nord est matérialisée par un fleuve qu'il est relativement facile de traverser, vous avez des ponts partout, et là vous avez tout un commerce informel de Coréens ou de Chinois, de la minorité chinoise de Corée du Nord, qui va de l'autre côté en Mandchourie échanger des denrées. Et tout cela, finalement, s'arrête brutalement. Ouais,
ouais. Alors, venons-en à Mi Jin, la femme que vous nous permettez de rencontrer dans votre dernier livre. Elle n'est pas bouclée dans son pays, elle, elle ne l'est plus puisqu'elle est réfugiée nord-coréenne, passée au sud il y a 10 ans avec sa fille. C'est une rencontre intime, puisque cette femme de 50 ans aujourd'hui raconte sa vie depuis son enfance dans la campagne au nord du pays, donc pas loin de cette frontière chinoise qu'on évoquait, jusqu'à sa vie en exil en Corée du Sud. Vous qui allez en Corée du Nord depuis longtemps, qui connaissez extrêmement bien ce pays, ce genre de témoignage, j'ai presque envie de dire de confidence, est extrêmement rare, non ?
C'est très difficile d'obtenir cette confiance de la part d'une Nord-Coréenne. Et quand on les rencontre également, alors en Corée du Nord, c'est difficile parce qu'on est quand même observé, donc c'est très difficile d'avoir ça. Mais en Corée du Sud, c'est aussi complexe parce que finalement, ils ne sont pas habitués à parler d'eux-mêmes. Quand les Nord-Coréens rencontrent des journalistes, on leur parle des sanctions, on leur parle de leur fuite, on leur parle de politique, mais on ne les interroge pas finalement sur leur vie, sur leur famille. Et nous, ce qu'on voulait, c'est écouter simplement la vie quotidienne d'une femme, ses émotions, ses souvenirs. Et là, quand elle a vu qu'on l'écoutait avec un intérêt sincère et qu'on lui parlait finalement de femme à femme, d'homme à femme, elle s'est littéralement ouverte à nous et ça nous donne une fenêtre finalement sur le quotidien de la Corée du Nord.
Ouais, cette intimité est touchante. D'ailleurs, on découvre cette société complètement normée, hein, où absolument tout relève de l'ordre politique et social, jusqu'au mariage forcément arrangé, jusqu'au divorce.
Oui, tout est entre les mains de l'État. Ceci dit, les individus essayent de vivre leur vie. Mais alors, le mariage arrangé, finalement, c'était quelque chose qui existait aussi en Corée du Sud autrefois et qui a disparu maintenant, petit à petit, avec la modernité. Donc,
Tout est régi par des classes quand même. On est dans des classes sociales assez définies.
Alors, en Corée du Nord, vous avez un système qui s'appelle le Songbun, qui classifie la population en plusieurs couches très séparées. C'est-à-dire, vous avez d'un côté les privilégiés, tout en bas, vous avez les personnes qui sont nuisibles au régime, et puis au milieu, vous avez ce qu'on appelle la classe flottante, c'est-à-dire l'essentiel de la population. Mais du coup, ces classes, cette grille de société très rigide, crée des situations extrêmement complexes, puisque d'après la position que l'on a dans la société, on peut ou on ne peut pas faire certaines études, habiter à un endroit ou à un autre, ou on en arrive même à des situations de Roméo et Juliette, où une personne d'une classe ne peut pas épouser une personne d'une classe supérieure.
Alors justement, Mi Jin raconte à la fois son mariage arrangé par son père chéri avec le fils de son patron, c'est un naufrage, et puis elle raconte aussi, c'est très émouvant, le coup de cœur qu'elle a eu avec un jeune officier de police, et ils ne feront finalement que se serrer très fort les mains, mais c'est extrêmement émouvant.
C'est très très émouvant parce que à ce moment-là, c'est très difficile à comprendre pour nous, à ce moment-là, elle découvre ce que c'est que l'amour véritable et l'émotion amoureuse. Jusqu'ici, elle avait d'un côté l'amour officiel qu'elle était censée donner à son mari, donc via un mariage arrangé, une sorte d'affection et dans un environnement de colocation presque. Et puis de l'autre côté, le mot amour n'est employé que pour les dirigeants. On aime les dirigeants, on aime son pays. Et brusquement, là, elle découvre le sentiment amoureux. Et c'est vrai qu'on la sent totalement désemparée face à cet amour inattendu.
On découvre aussi la place de la corruption. Vous dites qu'il y a plein de mots dans la langue nord-coréenne pour évoquer la corruption. Dans tous les rapports sociaux, et vous citez de ce proverbe nord-coréen, avec de l'argent, on peut acheter les testicules d'une vierge. Tout est possible, quoi.
Oui, la corruption, c'est amusant quand on regarde les dictionnaires coréen-français et français-coréen. D'un côté, vous avez un mot, corruption, avec éventuellement bakchiche, pot de vin. Et puis alors, de l'autre côté, on a une... foule de termes, parce que partout dans la vie quotidienne, en Corée du Nord, vous êtes obligé de payer des passe-droits pour passer d'un endroit à l'autre. À tous les moments de la vie, on sent qu'il y a ce qu'ils appellent le gukdon, qui est l'argent que l'on presse subrepticement dans la main pour obtenir ce que l'on veut.
C'est une société sans religion. Où même les cérémonies sur les tombes des défunts sont des actes sociaux, mais où la dimension spirituelle est pourtant bien là. Vous racontez ça très bien et à travers l'expérience de Mijin, tout le monde va voir en cachette les chamans.
Alors ça, c'est le côté absolument extraordinaire de la Corée du Nord. Alors, il faut savoir que le chamanisme est la religion originelle de la Corée, bien évidemment, mm-hmm. au Sud. Il est d'ailleurs toujours très, très vivace en Corée du Sud. Mais la surprise est qu'en Corée du Nord, ce chamanisme qui se rapproche du chamanisme bouriate, du chamanisme de Sibérie au bord du lac Baïkal, a pris une importance énorme, notamment pendant les années de grande famine. C'est-à-dire pendant la grande famine des années 90, c'est-à-dire au lendemain de la chute du bloc de l'Est, le pays s'est retrouvé coupé de son approvisionnement et a connu une famine horrible. À ce moment-là, les gens se sont tournés finalement vers ceux qui pouvaient leur apporter un petit peu d'espoir, une ouverture déjà vers les rebouteux, vers ceux qui pouvaient guérir, ceux qui connaissaient les plantes, ceux qui connaissaient les graminées, pour essayer de subsister. Et puis surtout, essayer de donner un sens à leur vie parce qu'ils avaient besoin d'aller au-delà et de rêver, d'espérer dans ce pays qui finalement était extrêmement sombre.
Mijin, c'est une femme très forte, très déterminée, dure. Hein. Elle dirige une équipe de mineurs, elle creuse des tunnels au marteau-piqueur, ensuite elle devient femme d'affaires. À l'image de cette dernière génération de femmes qui ont pris en main l'économie parallèle pendant cette famine que vous évoquiez, ces femmes, vous expliquez qu'elles représentent 80% des acteurs de l'économie aujourd'hui.
Oui, alors c'est assez extraordinaire parce que pendant cette grande famine, finalement, les hommes dans tout bon système socialiste qui se respectent ont été obligés de pointer à l'usine quotidiennement, même si les machines étaient à l'arrêt. Et du coup, celles qui ont pris l'économie en main étaient les femmes, les mères de famille, qui se sont mises en route, justement, on en parlait tout à l'heure, vers la Chine pour démarrer un petit commerce, également commencer à prêter de l'argent. Et elles ont créé des marchés en Corée du Nord où elles ont appris sur le terrain, finalement, à marchander, à commercer. Et elles ont démarré une petite économie qui au début était tolérée par le régime parce qu'elle permettait aux gens finalement de se nourrir sans qu'il y ait de révolte. Et puis maintenant, ces femmes ont créé une véritable place, une classe dans la société. Et c'est elle qui est finalement la vitrine de la Corée du Nord aujourd'hui.
Alors, on n'a pas le temps de tout évoquer malheureusement, mais on pourra lire dans le livre comment Mijin fait partie aussi et participe au système de surveillance généralisée dans la société, comment elle regrette finalement de ne pas avoir pu adhérer au parti officiel parce que voilà, elle n'a pas été intronisée. Elle finit par décider de fuir la Corée du Nord parce qu'elle risquait de se retrouver en camp de travail. Elle passe par la Chine, elle arrive à Séoul avec sa fille et elle doit faire ce stage d'intégration de 3 mois dans un centre fermé. Alors vous expliquez que c'est un choc pour tous les réfugiés, mais que surtout ce qui est très nouveau, ce qu'ils découvrent, c'est qu'ils sont sollicités par différentes communautés religieuses qui font du prosélytisme et ils n'ont pas l'habitude d'être confrontés à la religion. Et donc là, il y a 3 religions qu'ils ont présentes dans le centre. Et Mijin comprend surtout que cette fois-ci, elle a le choix.
Alors, c'est la première fois, en effet, que Mijin a le choix. Et en fait, ils ne savent pas ce qu'est une religion. C'est ça qui est assez surprenant et difficile à comprendre. Ils savent tous, les Nord-Coréens, quand ils quittent la Corée du Nord, ils savent qu'en Corée du Sud, on va leur demander à choisir entre protestantisme, catholicisme. Et pour la première fois, Mijin va, elle aussi, devoir choisir. Et alors, je vais le faire très rapidement. Mais d'un côté, vous avez les protestants qui vont lui donner beaucoup d'argent, des biens matériels. Et puis les catholiques qui ne vont rien lui donner du tout, mais simplement lui permettre de prendre les décisions elle-même et à nouveau donner finalement une vitrine d'espoir.
Elle est journaliste en Corée du Sud aujourd'hui, Mijin. Elle fait des émissions de radio, de télé et des conférences et elle parle de la Corée du Nord. Elle tient à montrer une image plus équilibrée de son pays tout en étant toujours une victime de ce pays. Elle veut montrer que c'est pas le paradis qu'on lui a raconté pendant longtemps, mais que c'est pas l'enfer non plus.
Mais il faut savoir que, oui, ce qui est intéressant, c'est que Min Jin est profondément nord-coréenne. Elle aime son pays, elle est profondément patriotique. Et en Corée du Sud, où elle est aujourd'hui, bien évidemment, la Corée du Nord a longtemps été diabolisée. Donc, son but, c'est de montrer simplement qu'au Nord, il y a des gens comme au Sud, qui vivent, et essayer d'apporter un regard beaucoup plus lucide et objectif que celui de la propagande.
Et elle garde la conviction qu'elle retournera dans son village natal tout au nord de la Corée du Nord. Juliette Morillo, avec Dorian Malovic, chef du service Asie à la Croix, vous avez permis à une voix singulière de se faire entendre. Mi-Jun, confession d'une catholique nord-coréenne, c'est le titre de votre livre publié par Bayard. Merci d'être venu nous parler de Mi-Jun et de la Corée du Nord aujourd'hui sur Europe 1.
Merci.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde. Partout dans le monde, les reporters et correspondants d'Europe 1 explorent et racontent le quotidien d'autres cultures, leur perception de l'actualité de notre pays. Et il est déjà 13h44, changement complet d'ambiance, Sophie Larmoyer. Après la Corée du Nord, vous nous emmenez sur le Bosphore pour une belle balade.
Nous voilà en Turquie, dans la ville d'Istanbul, au pied de laquelle coule le Bosphore. Le détroit sépare la ville en deux. Il part de la mer du Nord pour se jeter dans la mer de Marmara. Tout au long de l'histoire, les empereurs, sultans ou présidents qui se sont succédés ont bien compris la position stratégique du Bosphore qui sépare l'Europe de l'Asie. Mais le détroit est aussi splendide. Les écrivains, les peintres, les musiciens et tous ceux qui ont mis le pied à Istanbul ont célébré sa beauté. Aujourd'hui, le gouvernement envisage de construire un canal parallèle au Bosphore, au prétexte que celui-ci serait trop embouteillé. Cerise Sudri-Ledieu a embarqué sur les eaux mouvementées du détroit pour partager la vie de ceux, 10 millions de personnes, qui vivent avec le Bosphore tous les jours. Reportage.
Le trajet coûte à peine 90 centimes, c'est pourtant l'un des plus beaux du monde. 90 000 Istanbuliens prennent chaque jour le vapour. C'est la navette maritime qui sépare l'Europe et l'Asie, le métro Istanbuliot en somme. Et même aux heures de pointe, le paysage est splendide. En 25 minutes, les monuments les plus célèbres d'Istanbul défilent devant nous. Sainte-Sophie, la mosquée bleue, mais aussi les minarets qui percent le ciel de la ville ou les somptueux palais de la classe turque aisée. Le tout bercé par les vagues, à peine interrompu dans nos rêveries par le cri des mouettes. À bord, on peut siroter un thé, prendre son petit déjeuner et même écouter de la musique. Jeren Khan, 26 ans, joue presque tous les jours à bord. Depuis quelques années, la Régie des Transports a en effet autorisé certains musiciens à se produire, et pour la chanteuse, c'est bien plus qu'une simple scène.
Le plus beau dans le fait de jouer dans le vapour, c'est que ça me donne de l'inspiration. Entendre les mouettes, voir la tour de Léandre, le soleil à différentes heures de la journée, ça me nourrit tellement. Et parfois, je vois à la tête que font les passagers qu'ils ont le cœur brisé. Ça me touche tellement que ça m'arrive de pleurer.
Accompagnée de son guitariste, Jeren ne se voit pas jouer ailleurs. Elle adapte même ses chansons à la météo du jour et les passagers lui font parfois des petits cadeaux inattendus.
Ils laissent des notes en disant qu'ils aimeraient me donner de l'argent, mais qu'ils ne peuvent pas, qu'ils sont étudiants. Ils donnent parfois des petits cadeaux, des bouteilles d'eau, du chocolat. J'ai même eu des fleurs. Et même de l'eau de Cologne.
Après 25 minutes de trajet, on débarque à Karaköy, juste en face de la basilique Sainte-Sophie. De là par le pont de Galata, sur lequel sont installés dès l'aube une centaine de pêcheurs. Ils tentent de pêcher la sardine et la revendre sur les étals du petit marché aux poissons de la ville, quand ils ne la ramènent pas chez eux pour la cuisiner. Une scène typique d'Istanbul, les magasins alentours regorgent d'ailleurs de petits matériels pour taquiner le poisson. Installée un peu plus loin dans son petit bateau, Ahmet Yavash raille cette habitude. À 79 ans, elle se présente comme un vrai pêcheur du Bosphore, et ce, depuis 3 générations. Il est désormais à la retraite et ne part plus pêcher que pour le plaisir. D'ailleurs, le Bosphore est si pollué qu'aujourd'hui, plus personne ne fait de la pêche son revenu principal à Istanbul.
À Istanbul et dans ses environs, il y a plus de 30 millions d'habitants. Donc, 30 millions de personnes qui utilisent des détergents. Et ces produits chimiques finissent dans l'eau, car il n'y a pas de station d'épuration ici. Arrêtez de nous mentir. Notre mer est en train de mourir. Elle devient une mer morte.
Le vieil homme, casquette vissée sur la tête, se souvient avec tendresse du temps où, avec son père, il pêchait des milliers de poissons et croisait toutes sortes d'animaux sur le chemin.
Il y avait des requins, on en a vu un d'une tonne. Il y avait aussi des phoques, des thons énormes. Une nuit avec mon père, chacun d'entre nous avec une ligne, on a pêché 140 sardines chacun.
Ahmed s'est installé dans le petit port de Goksou, côté asiatique, une rivière qui se jette dans le Bosphore. De là, le détroit est très exigu et on peut sans peine distinguer les promeneurs sur la rive d'en face. Nul doute qu'il a dû apercevoir plus d'une fois la silhouette de Yoro Kishik, un autre stambouliote qui se poste presque tous les jours sur les quais. Encore un fou du Bosphore, mais son truc à lui, ce sont les gros bateaux. Chaque jour, une centaine de cargos, des navires marchands ou des bateaux de guerre transitent sur le Bosphore. Yoruk garde toujours du temps pour venir les observer, les prendre en photo et publier ses informations sur Twitter. Avec une petite douzaine d'acolytes, ils s'appellent les observateurs du Bosphore.
Par exemple, quand la Russie s'engage dans une opération militaire, le nombre de bateaux militaires qui passent sur le Bosphore augmente beaucoup.
En 2015,
on a commencé à voir des bateaux toutes les semaines, puis tous les 2-3 jours. Et puis en juillet et août, ils sont passés tous les jours. On a été les premiers à tweeter que la Russie prenait son investissement en Syrie très au sérieux.
Yoruk a choisi son appartement justement parce qu'il avait une vue sur le Bosphore et il en rit encore. Rien n'allait vraiment à l'intérieur, tout tombait en ruine, mais la vue était splendide. Et s'il part en vacances pour ne pas rater un bateau, un de ses acolytes a fait installer une caméra sur son toit. Et Yoruk n'hésite pas à se lever la nuit pour être là à l'aube au passage d'un bateau particulier. Mais il a beaucoup d'autres raisons d'être amoureux du Bosphore.
Parfois, on est témoin d'événements naturels incroyables. Des énormes tempêtes, des inversions de courant. On voit beaucoup de dauphins ou d'oiseaux migrateurs. Le Bosphore, c'est un endroit magique pour moi et pour beaucoup d'habitants d'Istanbul. C'est une ville si grande et pourtant on vient là et au milieu de ce chaos, peu importe ce qui peut se passer, la nature est toujours vivante.
À Istanbul, sur le Bosphore, Cerise Gourilodu pour Europe 1.
Retour en studio après cette balade sur le Bosphore et Cerise Sudri-Ledu est avec nous en studio à Europe 1. Bonjour Cerise.
Bonjour Sophie.
Petite visite parisienne. Dites, le Bosphore c'est bien plus qu'un bras de mer qui passe par là, c'est véritablement un personnage de la ville.
Alors oui, les stambouliotes adorent se promener sur les quais, prendre un thé en regardant les vagues, se prendre en photo. Et on ne compte plus les écrivains qui l'ont célébré, Ernest Hemingway, Pierre Loti, Gérard de Nerval, le prix Nobel turc Orhan Pamuk, ouais, qui a pris Istanbul comme scène de la plupart de ses romans, écrit aussi que quoi qu'il arrive dans sa vie, il pourra toujours se promener le long du Bosphore.
Ouais. Au-delà de son aspect romantique, le Bosphore c'est aussi un lieu très stratégique. Est-ce qu'il a un statut particulier ?
Alors oui, le Bosphore, c'est la porte d'entrée vers la mer Méditerranée pour les pays de la mer Noire, dont la Russie. Il est donc crucial. Toutes les 10 minutes, imaginez un cargo s'y engage. Alors il y a un texte, la Convention de Montreux, qui régit les conditions de circulation depuis 1936. Et pas question de le renégocier parce qu'il est beau être très vieux, on ne veut pas le renégocier. Surtout que le gouvernement a un autre plan, la construction de ce canal que vous évoquiez au début et qui serait parallèle au Bosphore. Il n'obéirait pas au traité, il permettra au gouvernement turc d'engranger de précieux revenus car il compte faire payer le passage.
C'est un projet un peu fou et on l'imagine assez controversé.
Alors oui, imaginez un peu, il pourrait transformer la rive européenne d'Istanbul en île. De tous les méga-projets d'Erdogan, on estime que c'est le plus coûteux. Alors le gouvernement affirme qu'il a le feu vert d'une obscure commission environnementale et que les revenus récoltés seront sans précédent. Mais ses détracteurs dénoncent un projet désastreux au niveau environnemental et un gouffre financier. Pour le moment, alors même si le gouvernement a fait état de travaux préparatoires, les opposants au projet sont très attentifs et ils multiplient les actions de surveillance sur place.
Merci beaucoup. On gardera un œil sur ce projet controversé. En tout cas, ça nous a donné l'occasion d'une jolie balade sur le Bosphore. Merci Cerise, à bientôt.
Merci.
Une autre balade dans un tout petit instant. On va retrouver Joseph Chovanec pour un petit voyage en Autistan.
Europe 1, les carnets du monde.
13h54, nous sommes avec Sophie Larmoyer pour quelques minutes encore sur Europe 1. Chaque dimanche, il est notre guide en autistan. Il a cette manière bien à lui de regarder le monde. Joseph Chovanec nous a rejoint, Sophie.
Philosophe et saltimbanque de l'autisme, voilà comment il se décrit lui-même. Et surtout, Joseph voyage tout le temps. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Vous êtes en vadrouille et donc en ligne avec nous depuis la fac de Louvain en Belgique, avec une réflexion cette semaine sur la place des femmes dans la ville.
Oui Sophie, on entend souvent dire que les villes ont été pensées par et pour les hommes, donc pas par les femmes. Ouais. D'où d'ailleurs diverses initiatives pour compenser et corriger ce constat. Mmh. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité, parce qu'à travers le monde, il y a des espaces urbains féminins. À Téhéran, par exemple, il y a des pans de la ville qui sont pour les femmes, y compris par exemple des jardins publics dédiés. Mmh. Bon, par contre, il y a aussi beaucoup de lieux qui sont interdits aux femmes. Dans le monde anglo-saxon, on parle beaucoup ces derniers temps de l'espace de coworking et de networking féminin en bon français qu'on appelle The Wing.
Alors, je vais dire deux mots de The Wing, c'est un collectif, un club d'espace de rencontres et de travail pensé par et pour les femmes, qui s'est développé depuis 2016 aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne. Voilà.
Oui, et qui se développe même très fortement. Mais on est encore très loin d'une ville féminine à part entière. Ouais. Pour ça, il faut aller à l'endroit où on s'y attendrait sans doute le moins, à savoir en Flandre, en Belgique. L'histoire commence à une époque reculée du Moyen-Âge, le XIIe siècle. À l'époque, l'expansion des ordres monastiques, mais aussi le contexte des massacres des croisades, ont facilité la fondation d'un système féminin très particulier, celui des béguines. Les béguines n'étaient pas des religieuses au sens strict, car elles ne faisaient pas de vœux et n'avaient normalement pas de relation d'obéissance envers une supérieure. Mais elles se réunissaient en communautés pieuses et contemplatives. Le mouvement s'est diffusé à une bonne partie de l'Europe, mais a disparu à cause des persécutions pendant le Moyen-Âge. Il n'y a qu'en Flandre, plus tolérante, que les béguines ont vécu jusqu'à ces dernières années.
Et alors, ces lieux où elles vivaient s'appellent des béguines. Guinage, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. La Flandre compte plusieurs de ses sites historiques, comme celui de Courtrai. Mais le lieu le plus mythique, le mieux préservé, c'est sans doute celui de Leuven, en français Louvain. Ouais. J'ai pu enfin m'y rendre samedi dernier. Et ça marque. Le grand béguinage, Beginhof en flamand de Leuven, est en fait une ville dans la ville. Mmh. Les béguines vivaient non pas dans un monastère, mais dans des maisons urbaines. Certes, c'est structuré autour d'une église, mais tous les corps de métier ou presque étaient représentés. Ouais. Avec beaucoup de béguines qui avaient des activités intellectuelles. D'une certaine façon que l'université de Leuven ait repris l'entretien du quartier, c'est logique, parce que l'université est une sorte d'héritière de ce mouvement-là.
Mais donc on peut visiter le béguinage de Louvain aujourd'hui ?
Oui, tout à fait, Sophie. Et pour moi, cette visite fut un choc. Cette sensation d'être subitement transporté des siècles en arrière, en plein Moyen-Âge. Alors certes, en Europe, il y a beaucoup de villes médiévales bien préservées, comme Prague. Mais c'est différent. À Prague, ce qui est conservé, ce sont les palais officiels, les églises, les demeures d'une élite restreinte. Ce qui était majestueux, pas tellement les vraies maisons de la vie quotidienne des gens, avec leur aménagement intérieur. Au grand béguinage de Leuven, le voyage mental est beaucoup plus fort. Quand on regarde attentivement, on peut voir les plafonds en bois peint, les fenêtres d'un type suranné, les petits chemins entre les potagers, etc. Une sensation Harry Potter. Il est d'ailleurs très possible que l'univers des béguines, des personnes socialement en décalage avec l'idéal de l'épouse et de la fée au foyer, ait été un univers autistique, comme celui de Harry Potter d'ailleurs. Et j'oubliais, Sophie, un facteur a renforcé mon vécu. À cause d'un problème de train, je suis arrivé en retard à la nuit tombée, d'où des effets extraordinaires d'éclairage faible et d'inconnu. Après tout, l'univers romanesque de Harry Potter est lui-même né à cause d'un gros retard du train. L'écrivaine étant dans ce train-là, elle a commencé l'écriture du livre justement pendant le retard.
Vous seriez en train de nous dire que la SNCF, par ses retards, œuvrerait peut-être à la créativité culturelle ?
En tout cas, je crois qu'elle nous fait voyager, mais pas toujours au sens où on l'entend.
C'est ça. Vous pourriez leur proposer quelques slogans dans ce genre pour leur publicité. Merci Joseph. À dimanche prochain.
À très bientôt.
C'est la fin des Carnets du Monde. Merci de les avoir feuilletés avec nous. Vous retrouvez le podcast, bien entendu, sur europe1.fr. Merci à Marc Fréjean qui a réalisé cette émission, à Florence Gimala qui m'a aidé à la préparer.